signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous en ce 31 décembre. Le christianisme est la construction imaginaire qui, en interprétant la passion comme un sacrifice, dit la vérité dissimulée de toute culture, le fond de cadavre dans les placards qui la constituent. L'inconscient est structuré comme un lynchage. C'est par cette formule brillante que Philippe Solers présentait au moment de sa sortie en 1978 des choses cachées depuis la fondation du monde, le livre qui achevait de consacrer auprès du grand public l'un des penseurs français les plus méconnus et les plus originaux, certainement l'un des moins récupérables, hier comme aujourd'hui, René Girard. Après mensonges romantiques et vérités romanesques, puis la violence et le sacré, René Girard achevait avec ce nouveau livre sa démonstration que le meurtre, la violence, sont les fondations de toute culture et qu'en ignorant cette origine, nous prenons le risque qu'elle se reproduise de façon toujours plus outrancière. Il diagnostiquait qu'en particulier depuis le début de la période moderne, entre les guerres napoléoniennes et la Seconde Guerre mondiale, une dynamique risquant d'entraîner l'humanité vers une montée aux extrêmes exterminatrice. En cette fin d'année, tandis qu'une violence extrême fait retour dans l'actualité depuis cet automne, jusqu'où ces livres peuvent-ils nous aider à nous orienter ? C'est ce que nous allons essayer de voir avec Benoît Chantre, qui sort en ce moment une biographie imposante de René Girard chez Grasset, qui s'appelle tout simplement René Girard. Bonjour Benoît Chantre.
Bonjour Marc.
Vous êtes essayiste, vous êtes éditeur, vous présidez l'association de recherche mimétique, qui est une association dédiée aux travaux de René Girard et à leur actualité. Vous avez publié plusieurs livres. Outre cette biographie, Achevé Clausewitz, entretien avec Benoît, un livre d'entretien avec René Girard, pour lequel je vous avais reçu d'ailleurs en novembre dernier. Et puis, Les derniers jours de René Girard chez Grasset également en 2016. Et Quand ces choses commenceront, une série d'entretiens avec Michel Tréguet chez Arléa, cette année d'ailleurs. Alors cette biographie qui est très imposante, on va pas faire le tour des plus de 1000 pages qu'elle contient, mais on va essayer de creuser quelques lignes de la pensée de René Girard et voir un peu son actualité. C'est un des penseurs les plus intuitifs qui fait la synthèse de multiples disciplines, depuis la critique littéraire, on va en parler, jusqu'à l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie et puis la religion, la théologie. Pour le situer brièvement, il est né le 25 décembre, jour de Noël, 1923 en Avignon, d'un père conservateur de musée au Palais des Papes et conservateur de la bibliothèque du musée Calvet à Avignon, et qui était anticlérical, plutôt républicain, et d'une mère qui était, elle, catholique. Et en 47, en dépit des conseils de son ami René Char, il est parti enseigner le français avec une bourse aux États-Unis, où il a fait l'essentiel de sa carrière, où il a pris la nationalité américaine également. Il a enseigné jusqu'en 68 à l'université Johns Hopkins. Et c'est un détail que j'ignorais et que j'ai appris dans cette biographie. En octobre 66, c'est lui qui a organisé le fameux colloque sur les langages de la critique et les sciences de l'homme, qui ont été l'acte fondateur de la déconstruction aux États-Unis. C'est vraiment lui, à son corps défendant, par ailleurs. Voilà. Alors, première chose d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les fondations de la culture, quelques éléments biographiques. J'ai appris dans ce livre, en 47, René Girard, juste après-guerre, il est à Avignon, donc, et il voit s'installer ce qu'on va appeler la décentralisation culturelle française. Et vous écrivez que cette idée que c'est avec les moyens d'État qu'on entend diffuser démocratiquement les œuvres d'art, il y a une tentative en parallèle de relance du surréalisme après-guerre à travers une série d'expositions, notamment à la Galerie Mac. Et vous dites, ça ne semble pas du tout correspondre, pour René Girard, ça ne semble pas du tout correspondre aux situations extrêmes et aux grandes circonstances dont Sartre vient d'écrire dans les temps modernes, quels sont l'horizon des œuvres à naître. Girard, bien qu'il ne soit pas marxiste, partage avec Sartre un commun refus de la culture bourgeoise qui est en train de se mettre en place, et il se remet mal, vous écrivez, du choc de 40, et il subodore, sans le formuler clairement, que c'est une sorte de honte que la mystification de l'art moderne en France essaie de couvrir, en quelque sorte. Il y a un malaise français qui couve sous cette reconstruction culturelle. Et c'est de là que vont partir ces réflexions. Est-ce qu'on peut en parler d'abord de ça ?
Oui, vous attaquez par le moment centrale de l'œuvre et de la vie de René Girard, qui a vécu très discrètement son enfance avignonnaise, ses études à l'école des Chartes pendant l'occupation, et ce moment où, pour la première fois, il va voir, dit-il, sa ville par les yeux des autres. Ce qui est tout à fait symptomatique comme formule, et qui met au cœur d'ailleurs de sa propre conception des rapports interhumains. Mais la première fois qu'il voit sa ville natale par les yeux des autres, en 47, c'est effectivement le moment où s'invente, à l'initiative de Zervos, Christian Zervos, et de René Char, un événement va marquer l'histoire de la culture en France, c'est-à-dire une très grande exposition qui aura lieu dans la chapelle Clémentine, la grande chapelle du Palais des Papes. Pour pouvoir se voir ouvrir cette chapelle, il faut des clés. C'est celle que détient Joseph Girard, le père de René Girard, conservateur du musée Calvet depuis 1906, personnalité éminente, érudite d'Avignon. Et puis il faut des jeunes fougueux que cette aventure peut intéresser, et ce sera René Girard qui sort de l'école des Chartes en 46. Son ami Jacques Charpier, fils du responsable communiste aux Beaux-Arts de la ville d'Avignon, avec lequel il a travaillé la philosophie, la phénoménologie, mais aussi la poésie. Ce sont des jeunes qui entourent René Girard, il y en a quelques autres, et qui veulent, dans ce formidable revival de la libération et de tout début de l'après-guerre, commencer une œuvre. Ils vont donc chez Picasso, avec leur estafette, prendre eux-mêmes des œuvres, les œuvres qu'ils veulent, à condition, dit Picasso, qu'il y en ait autant pour Matisse, ni plus ni moins. C'était la seule condition. Et ils vont chez Matisse, Girard passe sa main dans une blouse romaine de Matisse qui figure maintenant à New York, et ils font, dans cette chapelle Clémentine, une exposition absolument inouïe. Tous les grands artistes sont là, Georges Braque, Matisse, Picasso, plein d'autres, et Jean Villard n'est pas loin, et Char et Zervos le convainquent de tenter une expérience théâtrale, et ce sera Shakespeare et Claudel, oui. L'histoire de Toby et Sarah, et Shakespeare, une tragédie de Shakespeare, qui va lancer Festival d'Avignon. Alors là, Girard découvre à la fois la grande excitation de sortir de la guerre, déjà, parce qu'il l'a vécu tragiquement, et celle de donner des expositions, de donner des conférences, de monter une exposition, de faire de l'agit-prop culturel. Et il sent très bien qu'il il s'agit en quelque sorte dans le sens de l'histoire. Mais très vite, au-delà de l'amusement de voir des bourgeois avignonnais choqués par la torsion des figures féminines de Picasso, il a l'impression d'assister à une gigantesque mystification, celle de l'art moderne. Et que dans la grande humiliation qui est la sienne, qui fut celle de Lévinas, celle de Claude Simon, celle de grandes figures qui ont inauguré leur œuvre dans la défaite de 40, humiliation historique dans l'histoire du pays, jamais la France n'a été humiliée à ce point, il a le sentiment que l'Europe est en ruine, bien sûr, et que la France est irrémédiablement perdue. Et que tout ce grand lyrisme de la décentralisation culturelle, Malraux n'est pas encore là, mais les voix du silence vont sortir et sa grande voix va se faire entendre pour Girard, mais que toute cette décentralisation culturelle qui est la grande affaire de l'après-guerre est un cautère sur une jambe de bois.
Vous dites, il sent que la conscience nationale en fait est déchirée en deux mythes concurrents, en deux dénégations solidaires dans leur opposition même, qui sont le gaullisme et le communisme issu de la résistance, dénégation solidaire d'une crise dont personne ne veut voir la profondeur en réalité.
Oui, c'est ce qu'a dit Peter Sloterdijk en réagissant au livre que j'ai coécrit avec Girard en 2007 sur Clausewitz, Achevé Clausewitz. Il est le premier à avoir réagi par un très beau texte, un petit essai qui s'appelle Théorie des après-guerres, et il est marqué par ça, en lisant le Clausewitz que j'ai écrit avec Girard, très marqué par ce qu'il appelle la falsification du résultat de la guerre. Ces deux mythes concurrents qui émergent dans l'après-guerre, qui sont d'un côté le gaullisme, puisque De Gaulle quitte le pouvoir dès 46, donc c'est le gaullisme qui commence, la mystique dégénère en politique, comme aurait dit Peggy, et de l'autre le communisme. Et ce sont donc deux rivalités jamais l'air, s'accusant mutuellement de dictature. Les communistes accusant les gaullistes de vouloir réinstaller une dictature, avec un général fantasmé en dictateur, Et les gaullistes, très anticommunistes, fantasmant une révolution que les communistes seraient en train d'installer en France. Donc cette rivalité mimétique et jamais l'air, c'est le cœur même de l'intuition de René Girard. Il ne cessera de réfléchir à ses frères ennemis.
Oui. Et à l'époque, il n'est pas le seul à sentir ce malaise. Il y a Simone de Beauvoir fait dire à un de ses personnages dans Les Mandarins en 52, les Français ne savent pas s'ils ont gagné la guerre ou s'ils l'ont perdue. Pour réussir l'avenir, il faut garder le présent en face. Et j'ai l'impression que les gens d'ici ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe. Ils ont l'air de s'imaginer qu'ils pourront vivre comme avant la guerre.
Exactement. Lévi-Strauss dit la même chose.
Oui, c'est ça.
Gaulliste, bien sûr, Lévi-Strauss comme Girard, mais s'insurgeant contre cette mystification de la victoire. Nous avons perdu la guerre.
Alors, et c'est un malaise qui va, en fait, les années de prospérité vont recouvrir, mais qui ne va jamais vraiment disparaître. D'une certaine manière, on pourrait même dire qu'il a ressurgi après la fin de la guerre froide. Mais Girard, lui, part aux États-Unis à ce moment-là. Son premier travail de thèse va être un travail de thèse pratiquement là-dessus, vous le dites, hein, l'opinion américaine sur la France entre 40 et 43. Et il écrit sur le malaise français. Ce malaise vient d'un sentiment de supériorité culturelle qui s'exprimait avec d'autant plus d'arrogance qu'en définitive, il dissimulait des doutes angoissants et des traumatismes accumulés par la défaite, de l'occupation et surtout de la victoire américaine. Victoire libératrice sous tous les autres rapports, mais psychologiquement écrasante pour les libérés. Et c'est à partir de ce sentiment de supériorité intellectuelle qu'il va commencer à réfléchir sur la notion du moi, le grand écrivain, le moi qui s'affirme, et tout l'héritage de la tradition romantique dans la culture française, et ça finira par donner mensonge romantique et vérité romanesque bien plus tard, en 61. On peut dire ça comme ça.
Oui, bien sûr. On peut très bien voir dans cette même si c'est très confus quand Girard est sur le pont du De Grasse, ce paquebot tout rafistolé, belle image de la France qui part vers Manhattan en 47. S'il est obscurément conscient de tout cela, il sent quand même qu'il quitte un grand mensonge.
Hein, oui.
Et qu'il quitte ce qui s'appelait le pétinisme qu'il a atrocement vécu lui à Paris pendant l'occupation pour retrouver ce qu'il va appeler le pétinisme américain, c'est-à-dire les premiers linéaments du McCarthyisme. Cette traque affolée des coupables, juifs, communistes ou homosexuels, qui va le dégoûter très profondément de l'Amérique, puisqu'il va enseigner à Bloomington, au fin fond de l'Indiana, au moment où tout ceci est en train de monter. Donc ce mensonge-là, il le retrouve encore plus poisseux, plus prégnant dans cette Amérique qui a en plus l'arrogance du vainqueur. Et il est lui humilié, comme tous les Français, on pense arrêter même. Tout le monde, personne ne le sait, ça. L'enseignement du français aux États-Unis, ce sont des vaincus. Ce ne sont que des vaincus. Donc, c'est à titre de sous-homme, en quelque sorte, que Girard va essayer de rester comme il le peut aux États-Unis. Et il va aller de fac en fac parce que c'est la fameuse loi du publish or perish, et qu'il est plutôt du genre à aimer les voitures, à être un grand séducteur encore à l'époque, et qu'il ne travaille pas assez, ou du moins le dit-il, parce que très rapidement, il prend au sérieux cette urgence de publier dans des bonnes revues, il va sortir des articles majeurs.
Alors, il va travailler, on va passer à Mensonges romantiques et vérités romanesques, qui va être son premier gros livre en 61, qui va être le résultat d'années de recherche. Et c'est une de ses grandes originalités, c'est que ces thèses majeures qui vont influencer jusqu'à la géostratégie et jusqu'à l'économie aujourd'hui, partent d'analyses littéraires, d'analyses du patrimoine littéraire français, notamment Stendhal et en particulier et aussi Proust, et via Hölderlin, via Sophocle. C'est-à-dire que pour échapper aux mensonges romantiques de la culture française, il se plonge dans la tragédie, d'abord Sophocle, et puis il revient ensuite à l'étude de Proust, et son étude, ça va être ce qu'il appelle la recherche du moment où l'illusion de la fiction se mue en vérité de la parole, et où il va essayer de découvrir le substrat des grandes œuvres. Si vous pouvez en dire un mot.
Oui, en fait, d'abord, il faut dire que vous avez tout à fait raison de citer Proust, puisque Girard, voyou bourgeois, comme il disait lui-même, renvoyé constamment, puis définitivement du lycée Mistral à Avignon, c'était pendant la guerre, c'était pendant l'humiliation de la défaite et de la collaboration, va préparer son bac d'abord, puis le concours de l'école des chartes dans la bibliothèque du musée Calvé, où là, il se replonge à nouveau dans celui qu'il a découvert à l'âge de 15 ans, qui est Proust. Et il est méprisé par ses amis surréalistes, ou pas encore post-surréalistes, mais qui, autour de René Char et avec Char lui-même, sont dans une visée de la littérature qui est celle des années 30, et ricanent sur ses goûts bourgeois, puisque Proust est très dénié, à l'époque très ridiculisé. Il va rentrer dans l'après-guerre dans un long tunnel dont il ne sortira qu'avec les recherches, le grand livre de Deleuze en 64, etc. Mais les années 50, c'est un long tunnel proustien. Girard part aux États-Unis avec Proust. Il y a le sentiment qu'il y a tout dans Proust.
On va voir ce qu'il y trouve dans une seconde. L'intuition de René Girard, c'est qu'il existe dans les grandes œuvres, dans le grand patrimoine littéraire, des sortes de lois psychologiques qui s'appliquent à la totalité de l'humanité. Et il va essayer de dégager ces lois, notamment dans l'étude de la recherche. Et ce qui va dégager en particulier, c'est la manière dont on passe de l'admiration constructrice, si on pourrait dire, à la rivalité destructrice. Le mensonge romantique a porté un coup fatal au modèle aristocratique. Le réalisme, cette lumière jetée sur le monde par les romans, se complexifie d'une œuvre à l'autre. Vous dites, la longueur de la phrase proustienne est à l'image du vaste désert privé d'indices qui est devenu le monde moderne à l'aube du XXe siècle. Un tel vide correspond à un stade avancé du nihilisme. Est-ce qu'on peut développer un peu cette idée-là ?
Oui, alors c'est très important, puisque c'est avec Proust que Girard a le sentiment de tenir enfin quelque chose de solide, c'est-à-dire que la littérature n'est pas le royaume des choses vagues, comme ne cessait de le dire Valéry, mais le royaume de choses extrêmement précises, de lois très précises, qui sont les lois des relations humaines, les lois du désir humain. Et dans le sadomasochisme proustien, celui de Sodome et Gomorre, dans cette longue descente aux enfers qui est calquée sur l'enfer de Dante, parfaitement maîtrisé par l'auteur de La Recherche du Temps Perdu, Girard voit effectivement l'aboutissement d'un nihilisme qui commence avec l'aube de la modernité, qui est pour lui le Don Quichotte de Cervantes. Tout se passe dans son esprit quand il commence à enseigner le roman à l'université de Bloomington, puis à celle de Duke en Caroline du Nord, puis à celle de Bryn Mawr en Pennsylvanie. Tout se passe comme si l'histoire du roman commençait avec Cervantes et s'achevait avec Proust, qui avait là un marqueur très puissant, comme on dit aujourd'hui, de roman en roman, Cervantes, après plus particulièrement chez Girard, Madame de Lafayette, Manon Lescaut de l'abbé Prévost, puis Flaubert, Stendhal, puis Dostoïevski et Proust, qu'il y avait avec le roman un marqueur très puissant, une manière très puissante de mesurer les étapes de la décomposition de la culture occidentale, ce qu'on appelle avec Nietzsche le nihilisme. Et Girard le formalise, lui qui était sartrien lorsqu'il arrive aux États-Unis, très existentialiste, de manière structurée. Il est là pleinement de son temps, puisque le livre sort en 61, et il invente ce qu'il appelle la structure du désir humain, c'est-à-dire un désir qui est triangulaire. Je ne désire pas un objet spontanément, mais par la médiation d'un tiers qui le désire à mes côtés ou pourrait le désirer. Si ce tiers est assez lointain, comme au temps des structures stables, des sociétés de caste, et se confond à la limite avec la culture, il n'y a pas de conflit, la culture est tenue en quelque sorte, est durable. Et ce qui s'opère avec le choc, le séisme, la Révolution française, telle que pense proposé par Tocqueville, c'est la montée de l'égalitarisme, c'est-à-dire d'un modèle qui se rapproche de plus en plus du sujet. Et se rapprochant de plus en plus du sujet, l'objet disparaît, puisque les deux sujets et médiateurs deviennent finalement deux rivaux, finissent par préférer la dispute à l'objet de leur dispute. Cet objet, il se réifie en quelque sorte, il revient dans l'être même du modèle. C'est l'être réifié du modèle que le sujet qui obsède de plus en plus le sujet. Cette obsession croissante de l'autre, telle que Girard en avait vu les premières analyses dans l'être les néants de Sartre, trouve là un modèle structural absolument fascinant, celui du désir triangulaire de la médiation externe qui passe en médiation interne au fur et à mesure où l'admiration se corrode et où monte une jalousie du sujet et de son modèle qui vont devenir deux sujets, deux frères ennemis en quelque sorte, qui, quand bien même ils chercheraient désespérément à se différencier, vu d'un regard extérieur, deviennent de plus en plus les mêmes. C'est ça la grande idée de Girard qu'il découvre dans ses cours portant sur le roman. Cette grande idée, et Foucault la définira magnifiquement, qu'il lira avec enthousiasme La violence et le sacré en 72, c'est un nouveau concept de l'identité.
C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'avec Proust, en lisant Proust, on découvre que les modèles aristocratiques ont cessé d'exister. Donc, ces modèles qui auraient été des objets d'admiration sont remplacés par une forme, effectivement, vous venez de le dire, d'égalité entre les sujets, en quelque sorte, qui se prennent comme modèle l'un l'autre et qui donc, du coup, immédiatement, se jalousent mutuellement. L'une des conséquences de cette découverte, c'est l'idée que, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui partout où il s'agit de remettre en cause le patriarcat, la grande idée de Girard, c'est qu'il n'y a plus de pères. C'est dans le monde moderne, il n'y a que des frères qui se disputent l'héritage de ce que vous appelez la différence paternelle. On cherche à voler à l'autre l'être du père, à s'emparer des débris d'une autonomie perdue, vous dites. Il n'y a pas de vrai père dans le monde moderne, il n'y a que des signes du père, des indices précaires de maîtrise. Et quelque part, je n'ai pas retrouvé la phrase exacte, mais vous dites que s'il n'y a pas de père, ou s'il y a un père, ce n'est que la violence.
Mmh. La violence qui est père qui est père et roi de tout, oui. Comme dit Héraclite, souvent cité par Girard. Cette figure du père, c'est cette figure en fait de l'autre, à la fois vénéré et détesté. Et qu'est-ce qu'on vénère et qu'est-ce qu'on déteste dans cet autre qui se rapproche de plus en plus de nous, qui nous obsède de plus en plus, qui nous hante de plus en plus, c'est son autonomie prétendue. On adore et on déteste en lui son apparente liberté. Et donc le moi va de plus en plus désespérément tenter de montrer sa propre liberté, sa propre autonomie contre l'autonomie vénérée et détestée de cet autre qui se rapproche de lui. C'est ça le mensonge romantique. Ce sont en fait deux égos qui se défendent mutuellement, qui essaient de prouver à l'autre l'antériorité de leur désir sur l'objet. Et l'objet finit par disparaître puisque l'enjeu est une lutte qui devient une lutte extrêmement violente et qui mène aux pires pathologies. Alors quand on est dans le domaine du romanesque, ces pathologies sont décrites, on peut en montrer la montée en puissance, et Proust l'a admirablement fait, radicalement fait, définitivement fait, selon Girard. Après Proust, il faut faire autre chose pour penser cette loi du désir triangulaire, il faut inventer une théorie.
Et alors, en d'autres termes, en lisant Proust, il découvre Dostoïevski. C'est-à-dire que la culture du ressentiment, de l'envie.
Oui, c'est paradoxal. Il place Dostoïevski après Proust.
Oui, voilà.
Il a peu souci des chronologies. Dostoïevski vient après Proust dans cette lente décomposition des modèles occidentaux. Il faut voir cette tentative qui se moque un peu de l'histoire littéraire, vraiment comme une approche structurale. C'est-à-dire, il cherche vraiment quelque chose qui va être à l'origine, selon lui, révélé dans les œuvres de génie, bien sûr. Mais ça, c'est une chose, cet enfer des relations humaines. Il ne peut apparaître, cet enfer des relations humaines, que parce que la littérature occidentale est chrétienne en son essence. Et c'est la découverte que ce sartrien athée de tous les dieux va faire dans les années 50. C'est que, en lisant Madame de Clèves, La princesse de Clèves, en lisant Manon Lescaut, même de l'abbé Prévost, il découvre une structure profondément chrétienne. C'est-à-dire que le roman est conçu sur ce qu'il va appeler l'incarnation romanesque, qui devait être le titre de son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques. L'incarnation romanesque, puisque dans tout roman digne de ce nom, l'auteur finit par s'incarner en un personnage, ou à incarner sa propre parole en un personnage. personnage qu'il va littéralement mettre à mort. Et de cette mise à mort de ce personnage qui a émergé des autres, un peu comme une victime aztèque qui a été engraissée et qui émerge particulièrement parmi les autres, de ce personnage principal qui est monté en quelque sorte au point d'incarner l'auteur lui-même, mise à mort de ce personnage tué, va naître un style. Un peu comme d'un taureau écorché jaillisse un premier essaim d'abeilles dans la mythologie grecque, de cette mort du personnage va jaillir un style et la chance de boucler un roman, c'est-à-dire de sortir enfin de cet égoïsme, de ce mensonge romantique, de cette illusion romantique, en la mettant littéralement à mort. Il y a incarnation, il y a mort et résurrection, il y a ascension. Girardi, dans ces trois mouvements, il y a un mouvement qu'il trouve fondamentalement dans les Confessions d'Augustin et dans la Divine Comédie de Dante. Les deux auteurs qui, pour lui, sont des auteurs incomparables de l'Occident. Et c'est cette structure qu'il découvre. Et donc, il découvre que le pire du désir mimétique ne peut advenir que chez des auteurs qui ont pris une distance avec les lois du monde au point de pouvoir enfin les objectiver et montrer comment elles fonctionnent. Et mettre au jour cette structure. Pour la dépasser, effectivement, dans un dépassement de la littérature elle-même qui va s'appeler le prophétisme.
Alors, hors littérature, ce que René Girard met à jour, c'est une culture de l'insatisfaction, en fait. Et c'est pour ça que je parlais de ressentiment. C'est de l'insatisfaction et de la colère. On le voit tous les jours aujourd'hui. On le voit tout le temps, en fait. Vous avez plusieurs formules dans le livre. Un monde où nous ne cessons de susciter ce qui nous humilie. J'adore ce qui me méprise, par exemple la voiture que je ne peux pas m'acheter, mais dès que ce mépris baisse, quand la voiture se met à portée de mon portefeuille, je ne l'adore plus. On adore que ce qui nous échappe, qu'on ne peut pas encore avoir, parce qu'on est pris dans la course dans la rivalité permanente avec les autres, qui on veut ce que veulent les autres. C'est la grande découverte de René Girard, et elle va être nourrie, cette découverte, par l'époque dans laquelle il vit et dans le pays dans lequel il vit. Parce que j'ai été frappé en lisant le livre par cette idée de l'antériorité du désir entre les frères concurrents. Enfin, il faut toujours être le premier à vouloir quelque chose et l'autre le veut aussi. C'est une idée qui naît aux États-Unis, dans le cadre de la guerre froide, au moment où la Russie, vous le disiez tout à l'heure, la Russie et les États-Unis, ces deux frères gémellaires, comme le gaullisme et le communisme, sont deux frères gémellaires, mais là, les deux rivaux s'affrontent autour de la course aux armements nucléaires. Et donc, pour conquérir la Lune. Mais il y a une sorte de rapport entre cette théorie de l'antériorité du désir et de la concurrence mimétique et la course aux armements nucléaires et la théorie de la dissuasion dans laquelle baigne complètement René Girard à l'époque, puisqu'en 63, il est témoin pratiquement de la crise de Cuba.
Oui, vous avez tout à fait raison de signaler le contexte américain hors duquel cette théorie ne serait peut-être pas née, effectivement, puisque sa leçon un peu inaugurale, quand il rentre en 57 à Johns Hopkins à Baltimore, à l'université de Johns Hopkins, porte sur le consumérisme américain, et c'est ça qui convainc, c'est un espèce de tremblement de terre pour ces professeurs de littérature un peu sénescents. Voilà quelqu'un qui parle aussi de sociologie et s'est passionné pour la sociologie américaine et qui donc trouve dans ces modèles du désir mimétique quelque chose qui me permet effectivement de comprendre les lois du consumérisme américain. Et puis au-delà, et ça c'est aussi la lecture de Proust, des lois de la géopolitique. Et les petits mondes proustiens sont autant d'univers clos, obsédés les uns par les autres et voulant maniaquement défendre leurs différences alors qu'ils se ressemblent de plus en plus. Et c'est vrai que la Lune était-elle vraiment un objectif? Non, elle est devenue désirable parce que,
oui,
parce que l'adversaire la désirait parce furieusement, que, voilà, ou ça, pouvait la ça. Désirer.
Ouais. Donc cette théorie va aboutir à son second grand livre et le premier livre anthropologique en quelque sorte, qui est La violence et le sacré en 1972. Il faut dire avant que toutes les conférences que Girard donne aux États-Unis reçoivent l'assentiment de personnalités comme Théodore Adorno, par exemple, qui voit d'un bon œil les recherches de Girard. Je disais tout à l'heure que Girard est pas classable politiquement, parce que c'est un philosophe qui va s'orienter de plus en plus vers la chrétienté. En même temps, sa critique du consumérisme le rapproche dans une certaine mesure des théoriciens de ce qu'on appelle l'école de Francfort. Il s'empare d'un certain Freud, le Freud de Totem et Tabou en particulier pour le meurtre originel. Il va chercher vraiment dans des lieux très différents pour arriver à cette somme que va être la violence et le sacré, qui va mettre au jour ce qu'il appelle le mécanisme victimaire, le mécanisme de la victime émissaire, où se met en place la définition du religieux archaïque et du sacré vraiment comme opposé au divin.
Le mouvement est assez impressionnant puisque ce livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques en 61, connaît tout de suite un vrai succès d'estime en France. Aux États-Unis, c'est un coup de gong formidable. Et Girard très vite va quitter la théorie littéraire pour s'acheminer vers l'anthropologie en passant par une étude de la mythologie, puisque les gens avec qui il travaille lui disent mais c'est la mythologie est pleine de frères ennemis. Regarde Rémus et Romulus, regarde l'ensemble de ces conflits qu'on voit partout dans la mythologie, ce qu'il n'y aurait pas là, dans cette gémellité violente, quelque chose de tout à fait fondamental. Et Girard va creuser ça et avoir les premières intuitions de ce chaos, de cette soupe primordiale qu'est l'indifférenciation des individus, le décèlement des différences, en lisant l'Oedipe roi de Sophocle. Comme tous les gens de sa génération, il s'agit de sortir d'un certain Oedipe, celui de Freud. Marie Delcourt a déjà publié ses grands livres sur Freud, sa critique du modèle freudien de l'Oedipe, et Girard donne effectivement, vous mentionniez, une conférence de 65 à l'abbaye de Royaumont, une communication, un grand colloque monté par Lucien Goldman, devant un public impressionnant. Il y a Paul Ricoeur, il y a Umberto Eco, il y a Jacob Taubes, et il y a Adorno qui opine du chef, alors qu'il critique durement certains des intervenants. Et ça n'est pas inintéressant du tout, car Adorno vient un an avant de faire scandale chez les Heideggeriens en montant un autre portrait de Hölderlin, absolument magnifique, dans un texte qu'on a publié plus tard en français, Parataxe, contre la lecture que Heidegger avait fait de Hölderlin dans les années 34-35. Et donc, entendant Girard mobiliser à son tour Hölderlin et les fameuses remarques sur Oedipe et Antigone pour interpréter l'Oedipe roi, évidemment, il opine du chef. Que découvre Girard en lisant l'Oedipe roi de Sophocle? Quelque chose de très fondamental, c'est que cette rivalité qui va déchirer Oedipe avec ses doubles successifs, Créon, Tirésias, et finir par le maudire lui-même. Cette rivalité, elle se symbolise dans l'affrontement des protagonistes, mais elle symbolise quoi? Ou elle est symbolisée par quoi? C'est une double forme de symbolisation, par la peste qui ravage la ville de Thèbes. Ce que Girard a découvert à la fin de Mensonges romantiques et vérités romanesques, c'est que ce désir concurrentiel, il était contagieux. Que cette manière d'être obsédé par les autres, cette manière de désirer en fonction de l'autre, finissait par décomposer complètement une société. Et c'est le danger du consumérisme, on vient de l'évoquer, et cette décomposition de la société thébaine, elle est marquée, selon Girard, par la peste. Ce que dit la peste, c'est ça, la fin des différences. Et donc, il y a un moment donné, et ça, l'expérience tragique est fondamentale pour Girard et va le mener au cœur de son intuition, les différences se décèlent, on est presque au bord d'une indifférenciation, c'est-à-dire dans une communauté des identiques, où, brusquement, l'un de ces identiques va devenir plus identique que tous les autres. Vous imaginez l'absurdité, c'est un paralogisme, on ne peut pas être plus identique qu'un autre. Eh bien c'est ça que Girard découvre, latent derrière le texte sophocléen, qui est un texte mythique, un texte tragique, tragico-mythique, donc plein de différences, un texte différentiel. Mais derrière ces différences, ou ce jeu des différences, Girard découvre cette espèce de scène originaire où l'un est plus identique que tous les autres. Et ce plus identique que les autres, cette non-différence représentée, dit Girard, attire brusquement l'ensemble des sociétaires qui, menacés par cette identité contagieuse du tous contre tous en quelque sorte, vont brutalement, par un effet de physique sociale, se rassembler dans le tous contre un, c'est-à-dire exclure cette identité qui est devenue dangereuse, qui est devenue mortelle. Et c'est la première expulsion.
C'est le bouc émissaire.
C'est la victime émissaire.
C'est la victime émissaire et c'est le lynchage. Et pour réinstaurer, absolument, au moins provisoirement, une forme de différence entre les individus, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un prenne sur lui d'être la, le plus semblable des semblables et soit exécuté au nom de ça.
C'est, pour qu'il le prenne sur lui, c'est qu'il l'accepte. En l'occurrence, on peut le prendre, le modèle du roi qui accepte de mourir pour son peuple, c'est déjà une culture constituée. C'est déjà après cette scène originaire. D'accord. Vous avez cité Solaire tout à l'heure, qui était cette expression remarquable, qui comprend tout de suite en 78 le cœur de l'intuition de Girard, à la fois lacanienne et structurale, enfin, et lévi-straussienne, l'inconscient est structuré comme un lynchage. C'est Freud aussi qui apparaît, ce retour à Freud, au Freud de Totem et Tabou et de Moïse et de monothéisme. C'est un lynchage, vous avez raison de le dire, car c'est vulgaire, c'est brutal. C'est comme une tournante aujourd'hui en Ukraine ou près de la bande de Gaza. C'est aussi vulgaire et aussi obscène que cela. C'est un lynchage...
Parce que c'est ça que j'ai pensé, évidemment.
C'est un lynchage du tout contraint. Ouais. Et c'est ça que Girard sent derrière le mythe glorieux du roi qui accepte de mourir pour son peuple. C'est que l'origine même de la royauté, c'était cet individu qui, brusquement plus identique que les autres, avait attiré contre lui la polarisation de tous et permis à l'ordre de revenir dans la cité. Cette première substitution d'une victime émissaire à sa communauté, c'est celle qui fonde le début même des ordres culturels, des ordres symboliques, qui seront après une répétition constante de cette scène originaire. Donc c'est ce que Girard appelle la deuxième substitution des victimes rituelles, de toutes les victimes rituelles, de toutes les victimes sacrificielles, substituées à cette victime émissaire originaire. Mais cette scène originaire se répète à chaque fois qu'une société entre en crise. Elle n'a pas eu lieu une seule fois, comme le pensait Freud, à un point de l'espace, à un moment du temps.
Oui, on le voit en ce moment.
Oui. There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling, I hear him sing. He burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins, he reads my soul. One day that bird, he spoke to me like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder, come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder, so the hand of God, and he'll make you king, and he'll make you king.
Come join the murder. C'était la chanson est exactement là-dessus. On va finir cette émission sur des considérations là-dessus, justement, sur le danger de voir se reproduire le lynchage originel, et c'est ce que René Girard voit apparaître à partir de, notamment à partir des années 90 et des années 2000, après le 11 septembre. Il y a cette dans le livre que vous avez écrit avec lui, Achevé Clausewitz, c'est clairement formulé le risque d'une montée aux extrêmes, le risque que cette concurrence mimétique et cette nécessité du lynchage pour retrouver un minimum de différence conduise à la destruction totale. Et ce qu'il dit, c'est que la seule façon d'éviter l'indifférenciation meurtrière, c'est de retrouver la fraternité. C'est ce qu'il trouve, lui, à travers le message de l'Évangile et de la chrétienté, cette idée que nous sommes tous effectivement égaux, puisqu'il n'y a pas de père, nous sommes tous des fils, et soit nous sommes tous frères, soit nous sommes tous indifférenciés, en quelque sorte. Et il faut qu'on prenne conscience... à travers la rupture qu'a introduite le christianisme dans l'histoire de l'humanité, de cette fraternité, sinon on court à l'indifférenciation meurtrière et absolument catastrophique. On peut le dire comme ça ?
Oui. Alors, je dirais simplement, plus encore que nous sommes tous égaux, et qui est un concept qui est déjà relativement vieux, ce qui est nouveau chez Girard, c'est que nous sommes tous identiques.
Oui, c'est ça.
En bonne logique formelle, l'équivalence, comme disait Peggy, n'est pas l'égalité, qui n'est pas l'identité.
Ouais.
Et ce que Girard va jusqu'à dire, c'est que nous sommes tous identiques. C'est-à-dire que cette identité vers laquelle une société en crise se rapproche au point de risquer l'autodestruction, en quelque sorte, cette identité redoutable qui apparaît dans le décèlement de toutes les différences, c'est un moment de mort. Et comme Girard fonctionne toujours depuis son travail sur les romanciers, sur l'alternance mort et résurrection, ce moment même du plus extrême danger est un moment de salut possible, en quelque sorte. Puisque au moment même où le groupe est au bord de s'autodétruire, il a trouvé, ou a été trouvé plutôt, parce que ça n'est pas un choix politique, la solution de la victimisation du bouc émissaire. Aujourd'hui, cette solution ne fonctionne plus. Girard pense que c'est la révélation biblique et chrétienne qui a démonétisé cette justification de la violence sacrificielle. Elle ne fonctionne plus. Donc nous sommes face à une alternative très radicale. Et au moment même où l'identité devient la plus prégnante, le pire et le meilleur se profilent. Là où est le péril, disait Hölderlin, croit aussi ce qui sauve. C'est ça l'identité chez Girard. C'est quelque chose vers lequel nous nous dirigeons dans ce temps du sursis qui est dorénavant le nôtre, du décèlement de toutes les différences, où nous sommes jamais aussi près de la totale destruction que du salut, c'est-à-dire de la reconnaissance d'une fraternité qui est fraternité des identiques et qui est renonciation à tout simplement cette croyance immédiate que nous avons tous, que c'est toujours l'autre qui a commencé. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Avant de regarder, dit Jésus dans les évangiles, que cite souvent Girard, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. C'est tout simplement, en deux phrases, tout est dit. Si nous renoncions à dire que c'est toujours l'autre qui commence, si nous commencions donc à avoir une intelligence de des mécanismes de notre violence que nous faisons toujours porter sur autrui, alors cet extrême danger porté à l'infini quasiment avec l'ère nucléaire pourrait se retourner en son contraire. Et cet extrême danger qui pourrait se retourner en son contraire, c'est ce que les prophètes juifs, puis les évangélistes appellent le royaume. Le royaume n'est rien d'autre que cette fraternité des identiques, qui est déjà de ce monde en quelque sorte, et qui apparaît dans le détraquement de ce monde. Puisque cette structure du sacré que Girard a très bien décrite autour du mécanisme victimaire, de la double substitution, a construit les ordres symboliques, a construit les cultures, et c'est cette structure qui aujourd'hui se défait toute seule. Elle n'a pas besoin de grands déconstructeurs, elle se déconstruit toute seule. Le sacré, démonétisé, se déconstruit. La violence n'a plus aucune efficacité. La violence ne peut plus rien fonder. Au moment même où elle est devenue toute puissante, elle ne peut plus rien fonder. Elle est inféconde. Et c'est dans ce détraquement de la violence, ce Satan tombé sur le sol, comme dit Girard, qui va faire beaucoup de dégâts dans son livre en 99, je vois Satan tomber comme l'éclair. C'est dans ce détraquement du sacré que le pire et le meilleur peuvent advenir, pire ou le meilleur.
C'est le double sens du mot apocalypse,
voilà.
Catastrophe et révélation.
Vous êtes le premier, lui dit Foucault, qui résistait à l'injonction de la différence et au soupçon de l'identité.
Et
magnifique phrase.
Et voilà, c'est exactement là où on en est aujourd'hui, en ce 31 décembre, et on verra ce que l'année 2024 nous réserve. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy.
Friends, yeah. Hey!
Merci René Girard pour cet éclairage. René Girard, merci Benoît Chantre pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement René Girard. Voilà, la biographie de René Girard aux éditions Grasset. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Élise Leu et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. We're glad.